Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marc Nelson, je suis de La Rochelle. Je suis très content d'être ici avec vous. J'ai le privilège ce soir d'avoir ma femme et mes deux filles avec moi. Donc je sais ça vous gêne énormément, mais vous pouvez lever la main pour 2 secondes. Voilà. Les filles, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, en fait, comme j'ai dit, je suis très content d'être ici ce soir, mais surtout de vous parler de l'histoire. Et donc, je vais vérifier parce que il faut que je termine avant minuit. Donc, il est 21h06 et je vais vous parler de l'histoire après qu'on a mangé. Quelle joie! Donc, je sais en fait, il y a certains. Vous dites, oh, vous êtes presque en train de trembler. Oh, l'histoire, vas-y, continue, commence. Et l'autre, vous dites, c'est génial parce que je souffre de l'insomnie, donc d'ici 15 minutes, je vais être KO. Donc, j'espère que je peux présenter l'histoire d'une manière qui vous garde réveillé, mais aussi qui va vous montrer l'œuvre de Dieu pendant un moment de l'histoire. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà les panneaux qui sont là. Mardi dernier, j'étais presque en larmes, 500 ans de la réforme, j'étais tout excité. En plus, c'est mon anniversaire, donc je suis né le jour d'Halloween. C'est assez affreux, mais bon. Donc, je suis pas aussi bête que ça, donc je suppose que je suis ici ce soir, parce que c'est les 500 ans de la réforme. Donc, Edouard, j'attends pour le 1000e anniversaire, et tu peux inviter mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Donc, mais on va parler donc de la réforme, de l'origine de la réforme. Ce soir, en fait, bon, je savais que j'allais commencer assez tôt et après qu'on a mangé. Donc, je vais vous présenter plutôt le côté français. Et on va parler de la France. Demain, je vais commencer avec Martin Luther et les autres choses qu'il a fait. Je suppose déjà que vous êtes bien conscient que je suis pas né en France. Je travaille le plus possible de perdre mon accent et bon, ça, j'arriverai jamais, je crois. Mais en fait, ici, c'est l'histoire qui me passionne, parce qu'en fait, mes enfants sont nés en France et moi, je suis persuadé, mais de A à Z, je suis persuadé que Dieu m'a appelé en France. Et donc, ça fait des années, ça fait même quelques décennies hein, que j'ai commencé à regarder l'histoire de la France. D'abord pour apprendre pour moi-même, mais ensuite pour donner aussi un peu une espèce d'héritage à mes enfants, mais aussi pour l'Église là où je travaille. Parce qu'en fait, parfois, on dit les choses suivantes. Ah ben, en France, c'est difficile, hein. C'est pas évident de donner son témoignage au boulot. Et franchement, hein, c'est pas toujours très évident d'être chrétien dans sa propre famille. Parfois, vous êtes même la seule personne dans toute votre famille. Et là, on vous invite pour Noël, parce que c'est Noël, mais bienvenue, mais ferme ta bouche. Hein. On a vraiment assez de ton Jésus, et c'est pas évident de vivre ces choses-là. Et donc, sommes-nous seuls? Sommes-nous les seuls chrétiens depuis toujours en France? Et là, on dit, non, mais certainement pas, mais peut-être vous connaissez pas votre propre histoire. Donc, me voilà. Mais je suis aussi ici ce soir pour ça, hein. De vous montrer, vous n'êtes pas ni le premier ni le dernier, mais vous êtes dans une ligne de chrétiens fidèles, des chrétiens qui ont touché la France, les chrétiens qui ont changé la France. Et il y a 500 ans, et Dieu, il a radicalement changé la France. On a le même Dieu, on parle à peu près la même langue, pas tout à fait, mais c'est quand même le français. Et vous êtes les enfants de Dieu, qui ont aussi peut-être la possibilité de voir les grands changements, pas juste dans votre vie, mais dans toute la France. Donc, l'origine de la réforme, je vais vous donner le contexte. Je vais aller très très loin. Hein. Donc, on commence avec Dioclétien de 280 à 305 après Jésus. Et là, vous grattez la tête, vous dites la réforme. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est Dioclétien. C'était avec lui que l'Église était horriblement persécutée. C'était la plus longue, la plus grande, la plus sévère persécution jusqu'à cette époque-là. Et après, donc, Dioclétien, il a eu la très bonne idée de diviser son empire en 4. Donc, lui, il était à la tête et il a pris aussi, et juste parce que je n'ai pas encore tout mémorisé de toute l'histoire de l'humanité, il y avait avec lui Galère, Maximien et Constance Chlore. très bien, et on passe. Parce que je peux pas parler jusqu'à minuit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Constance Fleur, il a eu un fils qui s'appelle Constantin, ou Constantin le Grand, ça dépend comment vous voyez cet homme. Et en gros, on a tous entendu le mot Constantin à l'école. Même si vous dites, oui, j'ai entendu ce mot une fois et après, je suis tombé en sommeil et après, j'ai tout oublié, c'est pas grave. Il devient un des empereurs de l'Empire romain, mais en même temps, il y avait Maxence qui était à Rome, et les deux étaient en conflit. Et là, il y avait un combat. Et ce combat s'est fait en 312, la bataille du pont Milvius. Très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la nuit avant la bataille. Constantin, il dit, après, je n'étais pas là, donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il a dit ici, à ce pont-là, qu'il a eu une vision, un rêve, quelque chose dans les cieux. Et là, il a vu quelque chose, et ce qu'il a vu, et donc je demande les historiens, qu'est-ce qu'il a vu? Presque. Presque. Et là, je vois mon ami Ninigno qui a pris mon cours à l'Institut biblique d'Algrange, qui n'a aucune idée. Donc, 0 sur 20. Et d'ailleurs, Edouard, il faut qu'on révoque son diplôme, parce que franchement, il a vu ça. Donc, presque à quoi? Il a vu le Kyro. Le Kyro, les deux premières lettres en grec du nom de Jésus-Christ, du Christ. Il a dit qu'il a vu le symbole de Christ dans les cieux. Et donc, parce qu'il n'était pas aussi bête que ça, il a dit à tous ses soldats, Christ est avec nous, on va gagner la bataille. Et donc, sur les boucliers, ils ont tous mis le Kyro. Et vous croyez qu'il a gagné la bataille? Évidemment. Et donc, voilà la fameuse bataille de Milvius, de pont de Milvius, il a gagné. Et à cause de ça, il a dit la chose suivante des années après. Donc, il est l'empereur de Rome en 313, quelques années après, il a dit, moi aussi, je suis évêque. Vous, vous êtes évêque pour les choses qui sont au-dedans de l'Église. Mais moi, Dieu m'a institué comme un évêque pour les choses du dehors. Et à ce moment-là, globalement, l'Église et l'État sont mis ensemble. Quelque chose qui a fait du dégât depuis. Donc, par exemple, c'est pas quelque chose qui a fait du dégât, mais ça, c'est notre bon ami Charlemagne. Le 25 décembre, le jour de Noël, 800, il est couronné. Le roi de l'Empire par le pape Léon III. Vous imaginez aujourd'hui si Emmanuel Macron, avant qu'il entre dans l'Élysée, il faut appeler un évêque, le pape. Non, vous n'entrez pas avant que je touche votre tête, je vous donne le couronne de la France et je prie pour vous. Vous avez raté aussi ce moment à la télé, moi aussi. Hein. Mais l'Église et l'État, ensemble. Et encore, je vous dis, avec Constantin, avec Charlemagne, entre ce moment-là, jusque la Réforme et même après, ça a été une idée horrible. Horrible. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Donc, on a la France en 1500 là. Bon, France, Espagne, l'Allemagne n'est pas tout à fait l'Allemagne comme aujourd'hui, mais l'Angleterre. Et en dehors de l'Empire ottoman, donc les musulmans, on a l'Europe catholique. Donc cela veut dire qu'on a bien un roi, un prince, quelqu'un qui nous gouverne, mais presque plus important que ça, on a un pape. On a l'Église. Et donc en France, quand on a parlé de l'Église, on parle de l'État, et quand on parle de l'État, on parle de l'Église. Et donc si on veut aller au ciel, donc c'est la seule photo que j'ai trouvée pour aller au ciel, je suis désolé, hein. Pour aller au ciel, on fait partie de l'Église. Et quand on fait partie de l'Église, comment ça se passe? Bah, la naissance. Sauf que je n'avais pas envie de montrer la naissance, mais là, le petit bébé, avec le prêtre et les parents, il est baptisé. Sauf que c'est pas le mot. Donc, en fait, il est mouillé. Hein. Bon, je suis aspergé, mais c'est comme ça qu'on fait connaître visiblement que l'enfant fait partie de l'Église. L'Église catholique, bien sûr. Mais comment cet enfant, donc bien sûr, hein, c'est juste une image, mais comment cet enfant, comme tous les autres petits nouveau-nés, les nourrissons, les bébés en France, comment ils sont devenus catholiques en 1500? Par la naissance. Point final. On est né en France, on est catholique. Et on est catholique parce qu'on est né en France. Mais dans tout ça, il y avait une exception française. Donc, c'est pas une blague, pour moi la France est exceptionnelle, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais là, il y a vraiment une exception qui s'est passée en France. Donc déjà, il y avait dans l'histoire, on appelle ça le gallicanisme. Donc c'est l'idée, la France à part, mais la France pour la France, les choses comme ça. Mais François Ier, je suis désolé, mais j'aime beaucoup l'histoire, et j'aime les détails. Donc derrière son dos, il s'appelait le nez. Et on comprend pourquoi, hein. Mais on disait ça jamais devant François Ier, hein. Sinon on perd la tête. Il est le roi de France en début du XVIe siècle, le pape, c'est Léon X, qui, si jamais vous allez sur Google et vous tapez les mauvais papes, il fait toujours la liste des meilleurs 10, hein, dans les top 10. Là, il est toujours numéro 4, numéro 2, mais c'est vraiment quelqu'un pas très fréquentable. Et donc, François Ier est roi, Léon X, lui, il est pape. François Ier, il avait un amour du pouvoir. Donc, en 1515, François Ier a fait la bataille de... On a quelques grosses têtes parmi nous, donc merci beaucoup, Marignan. Il me semble que c'est en CE1 ou CE2, il faut apprendre ça, donc... Il faut marcher le cerveau, hein, ça, c'est une révision de l'histoire. Et donc, voilà, cette fameuse bataille qui a manifesté son amour de pouvoir. Mais honnêtement, c'était un homme qui aimait gérer tout. C'était vraiment son désir d'être le roi le plus puissant. Et le pape Léon X qui aimait l'argent. Et alors, pourquoi cette photo-là, cette image-là? Parce qu'il aimait tellement l'argent, il avait un éléphant. C'était un cadeau du roi de Portugal, mais il possédait un éléphant. Donc, quand il voulait chercher du pain, il a pris... son éléphant. Quand il avait cherché du lait, voilà. Et quand il avait envie juste de se promener au Vatican, il a pris son éléphant. Parce qu'il aimait beaucoup cette idée de l'argent. Une image, regardez-moi. Vous êtes quoi? C'est un cheval? C'est un âne? Donc c'est une Ferrari de l'époque, mais c'est quand même quelque chose qui a montré j'aime énormément l'argent. Et ces deux hommes, François Ier et Léon X, ils ont fait un accord ensemble, donc le Concordat de Bologne en 1515. Ce Concordat, donc c'est ce document-là, a donné la suite. Ce Concordat, il donne au roi de France un pouvoir sur l'Église dans ce royaume dont ne disposait aucun autre souverain catholique. Le pape reconnaît ainsi, et c'est ça vraiment l'essentiel, l'autorité du roi sur l'Église de France. À ce moment-là, François Ier avait plus de pouvoir que le pape sur l'Église en France, et n'oubliez jamais qui possède un éléphant, hein, le pape. Donc, pour nourrir son éléphant, le pape reçoit cependant certaines contreparties, notamment les rétablissements des annettes, une taxe versée au pape. Et la vie, elle est belle, hein? Parce que là, je m'appelle François Ier, et là, maintenant, je ne suis pas juste le roi de la France, mais c'est moi la tête de l'Église catholique. Donc, je fais comme je veux, je suis l'homme le plus puissant de toute la France. Et le pape, j'ai l'argent. Ça va bien. Surtout pour la France, le gros problème, c'était François Ier et ça. Claude de France, sa femme. Ce qui est reconnu officiellement dans l'histoire, c'est les 5 autres maîtresses. Mais normalement, dans la plupart des livres, il parle de 10, soit 12 femmes qui étaient à la disposition du roi quand il a voulu... Donc, que le roi de France est infidèle à sa femme, ça vous choque? Que la tête de votre église soit infidèle, ça vous choque? J'espère oui, hein. Et d'ailleurs, j'espère que vous dites, soit qu'il parte ou moi j'assiste plus cette église-là. Mais vous voyez le problème? Comment ne plus assister l'église officielle de la France quand on est français? Encore, pourquoi vous êtes catholique en 1515? Parce que vous êtes né. Aucun choix. C'est pas un choix entre catholique ou évangélique ou bouddhiste. Non, on est né. Et à la tête de l'Église, il y avait un homme où, si on était que les hommes ce soir, il n'y avait aucune femme, même à ce moment-là, je suis pas très à l'aise de vous raconter certaines choses que j'ai lues. C'est un homme immoral, un homme pervers, qui était le roi de la France. Bon, s'il peut baisser un peu les impôts et il garantit que j'ai les belles routes devant ma maison, bah ouais, ça... Mais la tête de mon église, non merci. Et donc, il y avait trois personnes, parmi beaucoup, beaucoup d'autres, mais trois personnes reconnues dans l'histoire, qui ont fait une opposition. Donc, la réponse française. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait d'abord Marguerite d'Angoulême, qui a fait face contre ce roi. Elle est née à Angoulême. Bon, c'est... Mais. Et je sais, hein, moi, bon, déjà, j'ai toute une famille qui me raconte sans cesse que je suis un peu fou pour l'histoire. Mon gros problème, c'est que moi, je vous raconte les paroles, hein, mais moi, j'ai vécu tout ça dans ma tête. Je ferme mes yeux, je vois, donc, j'avoue, hein, je suis pas normal, mais bon, je suis content avec moi, avec tout ça. Donc, je suis allé plusieurs fois à Angoulême, et en principe, la prochaine fois que vous êtes à Angoulême, vous regardez là, normalement, elle est née là. Ça vous donne les frissons, n'est-ce pas? Peut-être pas, mais bon, je suis pas normal. Et voilà, donc, comme une jeune fille, elle est née dans une famille noble, et donc elle a eu quelque chose vraiment anormal de l'époque. Elle a eu une très bonne éducation. Elle parlait 4-5 langues, elle était une fille très éduquée, et aussi, donc, on va passer un petit examen, elle est aussi la sœur de François Ier. Ah, ça change un peu, n'est-ce pas? Tout d'un coup, on dit, ah oh là là, mais ça veut dire que la sœur du roi est légèrement en opposition de son frère, le roi. Mais oui. Et donc, à une époque, elle a commencé d'échanger des lettres avec Guillaume Brissonnet, qui était à la tête de l'église Saint-Germain-de-Prés de Paris. Donc, si vous allez jamais à Paris, vous arrivez à la gare Montparnasse, vous prenez la ligne 4, et bon voilà, c'est l'arrêt Saint-Germain-de-Prés. Et je sais, la prochaine fois que vous y allez, vous allez visiter cette église, n'est-ce pas? Et vous allez dire, ce fou de La Rochelle, il m'a montré les histoires, donc... Et bon, c'est la dernière fois que je vais dire je suis fou d'histoire, parce que sinon je me répète toujours. Mais il est là, Guillaume Brissonnet, il est en contact avec la sœur du roi de France, qui écrit les choses suivantes. Il y a, littéralement, hein, il y a trop de débauches dans l'église. Il y a trop d'infidélité dans l'église. Et qui est la tête de cette église? Ah ben, son frère. Et donc, elle a eu certains contacts avec son frère. Même il y a des lettres qui existent aujourd'hui où elle a carrément témoigné de l'évangile de Jésus à François Ier, qui malheureusement a rejeté ce message. Et donc, il y avait aussi à l'époque, pas juste l'église, mais aussi, et c'est là, bon, je vais montrer le fait que je n'ai pas en France. Un abbé, une abbé. Un abbé. Là, voilà, donc il a été à la tête de cet abbé, l'abbé de Saint-Germain-de-Prés. Donc, on a l'église qui est toujours là, mais à l'époque, il y avait plein de bâtiments où il y avait aussi les couvents que les monastères, et donc il y avait carrément un séminaire là. Il y avait une fac chrétienne, hein, de chrétien catholique. Et donc, il y avait des enseignements, les prêtres ont été formés, et Guillaume Brissonnet était carrément à la tête de cette école et cette église. Et donc, il y avait une troisième personne. Donc, peut-être ça vous dit quelque chose, peut-être pas, mais il y avait aussi Jacques Lefebvre d'Étaples, qui est né à Étaples, évidemment, donc qui est descendu à Paris pour faire ses études. C'était un jeune homme très brillant. Il est devenu prêtre, mais après, il veut être aussi professeur dans les écoles. Donc, il a fait son école ici. Donc, j'explique rapidement. Il y avait un moment de ma vie quand j'étais devant le Paradis latin à Paris, et donc, j'ai pris la photo et j'ai pris la fuite tout de suite parce que c'est pas très normal, mes collègues pasteurs, qu'on prend les photos devant un cabaret à Paris, mais, en fait, ce qu'il faut comprendre à l'époque de Lefebvre d'Étaples, c'était pas le Paradis latin. C'était une école. Et donc, voilà, ce bâtiment faisait partie du collège du cardinal Lemoine. Donc, c'est une des le plus ancien à Paris. Il a fait ses études là-bas. Après, il est revenu comme professeur. Mais entre ces temps-là, il a fait connaissance de Georges Hermonyme, ou quelque chose à peu près comme ça. Je ne suis pas très doué avec les noms grecs. Georges Hermonine était le seul professeur de grec à Paris à ce moment-là. Et quand il a donné des cours de grec avec ses étudiants, qu'est-ce que vous croyez qu'il a pris comme cahier de texte? Le Nouveau Testament. Et Jacques Lefebvre d'Étaples, et c'est presque impossible d'imaginer que ce professeur grec était chrétien, mais c'est juste qu'il avait des copies de du Nouveau Testament. Jacques Lefebvre d'Étaples, simple prêtre mais un homme brillant, a commencé à étudier le grec avec la Bible. Et qu'est-ce qui se passe parfois quand on commence à lire la Bible? On est confronté par l'évangile de Jésus. Et donc, il a fait ses études-là, il enseignait aussi dans le même abbé-là. Et carrément ici, dans, aujourd'hui c'est un magasin, mais dans ce magasin, il est carrément une partie du mur de l'ancien abbé. On peut visiter là. Et en 1512, il a écrit le commentaire sur Saint Paul avec une nouvelle traduction latine. 1512, 5 ans avant Martin Luther, Jacques Lefebvre d'Étaples, un Français, a écrit les choses suivantes. C'est Dieu qui nous donne, par le moyen de la foi, la justice, qui par pure grâce justifie pour la vie éternelle. En gros, en 1512, Jacques Lefebvre d'Étaples, un Français, a écrit l'évangile de Jésus dans un commentaire. Ce livre a été écrit en latin, et bizarrement, et je vais toucher ça beaucoup plus demain, ça a été envoyé en Allemagne. Et ça a été lu par un certain moine allemand qui s'appelait Martin Luther. Et Luther, quand il va faire son commentaire sur Romains, il va citer presque 40 fois notre petit bonhomme, Jacques Lefebvre d'Étaples. En 1512, à Paris, un homme a commencé à parler, prêcher, publier l'évangile de Jésus-Christ. Juste une citation assez rapidement par un professeur, J.D. Benoît. En 1512, déjà 5 ans avant les thèses de Wittenberg, Lefebvre d'Étaples avait publié son commentaire sur les épîtres de Paul, un livre qu'on peut déjà appeler protestant. Le premier livre protestant. De fait, on y trouve affirmé, avec une netteté qui ne laisse rien à désirer, les deux grands principes qui seront les principes fondamentaux de la réforme. L'autorité souveraine des Écritures et la justification par la foi. 1512, déjà en France, ce message est publié et prêché et enseigné. Vous voyez l'importance de tout ça? Parce qu'en 1512 en France, on est né. On est catholique. On est né, on est chrétien. Par pure naissance, on va au ciel, sauf que c'est un mensonge. Sauf la réalité, quelqu'un qui reste dans cet état-là, il vit toute sa vie, il meurt, il passe son éternité en enfer, selon la Bible. Et donc, en 1512, il y avait quelqu'un, dirigé par Dieu, dirigé par le Saint-Esprit de Dieu, qui a découvert la parole de Dieu. Et ensuite, on a notre fameux Guillaume Brissonnet. Là, il est muté. En fait, il a une promotion. Il est envoyé à Meaux, donc on voit l'église là de la ville de Meaux. La ville de Meaux se trouve à l'est de Paris. C'est pas trop trop loin de Disneyland, si ça vous dit quelque chose. Sinon, c'est pas trop loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Ou sinon, si vous êtes vraiment quand même bien français, c'est là qu'on fait du brie, le fromage, le brie de Meaux, ça vous dit quelque chose? C'est magnifique. Donc voilà, il est là dans cette ville et il amène avec lui Jacques Lefebvre d'Étaples. Et à ce moment-là, donc on est déjà quelques années après la publication de son livre, il y a les convertis, il y a les jeunes hommes qui sont devenus chrétiens. Et dans le palais épiscopal de Meaux, et dans ce bâtiment est toujours là, j'ai visité cet endroit, le bâtiment est tout à fait comme ça. Il commence, en gros, on appelle ça un cénacle, mais en gros c'est une étude biblique, c'est un institut biblique plutôt, c'est une école biblique. Donc, vers 1519, ici dans la ville de Meaux, en France, on commence à former les serviteurs de Dieu. Le plus connu, c'était Guillaume Farel. Il était formé, il était enseigné dans cette école. Après, il va aller en Suisse, où il va changer énormément de choses avec la réforme en Suisse. Mais aussi, dans l'église, donc le grand chaire dans cette église qui est toujours là, À tour de rôle, chaque jeune se levait chaque jour pour donner un message de la Bible. Il commence à prêcher l'évangile dans la ville de Meaux, dans l'église de Meaux. Dans le sous-sol, dans les cryptes de l'église, il commence d'imprimer la Bible. Il y avait Jacques Lefebvre d'Étape qui a traduit la Bible des langues originaux avec une Bible française. Et donc, on a une école biblique, on a la traduction et l'imprimante de la Bible. Dieu, il est à l'œuvre dans une manière phénoménale en France, dans la ville de Meaux. Toute la réforme de France, en gros, va commencer dans cet endroit-là. Les jeunes vont partir dans les villes de Paris et d'autres villes pour prêcher. Ils descendent dans le sud, ils vont aller partout pour prêcher l'évangile de Jésus. Jean Calvin, il avait beaucoup d'influence. Jean Calvin n'a jamais assisté à cette école, mais il était amené à Christ par les jeunes de cette école-là. Tout cela, comment ça a commencé? Comment Dieu, il a travaillé, il a transformé tellement la France? La Bible. Et un des grands principes de la réforme, c'est la chose suivante, c'est sola scriptura. Donc peut-être vous avez entendu de cette chose-là, ça, c'est un peu la mode en ce moment de parler des cinq solas. Et donc pendant ce week-end, je vais toucher les cinq solas de la réforme. Donc c'est cinq idées, cinq enseignements, cinq principes, cinq doctrines de la Bible. C'est cinq choses qui ont largement transformé toute l'Europe et ensuite le monde entier. Et c'est les choses qui ont été toujours dans la Bible, mais à travers des siècles, c'est des choses qui ont été un peu perdues dans l'Église catholique, et quand je dis un peu, je veux dire beaucoup. Et donc, ce soir, on va commencer avec sola scriptura, donc l'Écriture seule, la Bible seule. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à trouver dans vos Bibles 2 Timothée, chapitre 3. Donc 2 Timothée chapitre 3. Et nous voyons là, donc, dans le chapitre, on est en train de parler, Paul, il donne des consignes à Timothée. Surtout, vous voyez dans le verset 1, il dit, sache bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et donc là, il va donner des consignes, il va donner des enseignements à ce jeune pasteur, comment vivre pendant ces temps difficiles. Et à la fin, à partir de verset 15, il va donner à Timothée deux choses vraiment essentielles pour la vie chrétienne, mais les choses qui sont autour de cette idée, la Bible seule. Donc on commence avec le verset 16, ça dit toute l'écriture. Et là ça dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et donc Paul, quand il a écrit ce mot inspiré, il a pris ce mot ici. On divise en deux, théo, ça veut dire Dieu. Et pneustos, respirer, souffler. Donc je vais vous demander à faire quelque chose, d'accord? Mettez votre main devant votre bouche, juste comme ça, d'accord? Et vous allez répéter la chose suivante. Paul a pris son panier de poivre. Et vous avez senti quoi? De l'air. Paul a pris... Mais pourquoi? Parce que quand on parle, on pousse... un peu de l'air. Sa sœur. La Bible est soufflée de Dieu. Et c'est compris pour nous cette idée de la bouche. Donc, vu que Dieu est un esprit, je ne sais pas trop comment ça passe quand Dieu parle. Il n'est pas tout à fait, je crois, comme nous. Mais nous, on comprend ce principe. Quand je parle... il y a un peu de souffle là, un peu d'air. Donc, la Bible est inspirée. Et ce mot pose un petit problème. Parce que quelquefois, je vais dans les montagnes. Et ça m'inspire. Et après, je fais un tableau, ou je crée un poème, ou je crée un chant. Parce que ça m'a beaucoup inspiré. Et là, quand je parle de Dieu, ça m'inspire. Et donc, je fais un tableau, et ensuite... Et pourquoi pas, mais ça change quoi, hein? Je suis très content pour ceux qui sont les artistes et très doués avec ces choses-là. Mais est-ce que c'est ça, cette idée? Que Dieu, il a vu toute sa création et il était inspiré. Je vais faire la Bible. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça n'a rien à voir avec notre mot « inspiré » comme on prend ça aujourd'hui. Ce que ça veut dire aujourd'hui, selon ce mot, la Bible, les Saintes Écritures sont poussées. Tous ces mots, ils sortent de la bouche de Dieu. Alors, pour 2 secondes, imaginez. Imaginez si sur chaque page, et chaque paragraphe, et chaque phrase, imaginez si ça c'était la parole de Dieu. Et il ne faut pas imaginer. La Bible dit d'elle-même que aujourd'hui devant vous, dans mes mains, j'ai littéralement les paroles de Dieu. Mais littéralement comme si Dieu, il a pris un stylo, il a écrit exactement ce qu'il veut pour moi. Ou si, bon, je prends la technologie d'aujourd'hui, mais si Dieu, il enregistre sa voix avec une lecture MP3 ou je ne sais pas quoi, et il m'a donné sa parole. Donc, vous voyez, mes amis, aujourd'hui, ce n'est pas juste quelque chose que j'imagine ou peut-être. Aujourd'hui, je vous dis avec certitude, selon cette parole, ce livre, je possède ici dans mes mains les paroles de Dieu. Et par exemple, imaginez pour une seconde que la Bible dit « Marie, aimez vos femmes » et je suis un homme marié et j'ai ma femme ici. Et si juste pour 2 secondes, j'imagine que Dieu veut que j'aime ma femme. Mais encore, il ne faut pas imaginer. Moi, j'ai la même chose si Dieu il a décidé d'être juste ici à côté de moi et qu'il dit dans mon oreille « réveille-toi, aime ta femme. » Oui, chef. Sauf moi, j'ai aucun besoin d'imaginer ça parce que c'est une réalité. Et toutes les autres choses que Dieu me donne ici dans sa parole. Toute la Bible, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et ensuite, ça dit, est utile. Donc on va voir rapidement 3 choses de l'utilité de la Bible. Pourquoi on a ce livre? D'abord, verset 15, qui nous dit, « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » La première chose que la Bible donne est simplement le salut. Et en fait, je ne prends pas trop de temps avec ça, parce que ça c'est pour demain et les autres messages, mais la Bible dit directement la chose suivante. Nous sommes pécheurs, nous sommes éloignés de Dieu, carrément ennemis de Dieu, et Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Jésus, lui seul, peut nous donner une éternité au ciel avec le Père. C'est la Bible. La Bible est utile. La Bible existe pour notre salut. Et juste une application pratique. Et pourquoi il y a tellement de fois dans ma vie où je veux faire l'évangélisation sans la parole? Bon, je sais pourquoi, mais... La parole. Je peux donner mon témoignage, j'ai rien contre ça. Je peux parler de plein d'autres choses. On peut passer un film, on peut faire d'autres choses, mais la parole. Apparemment, la parole est aussi efficace. Apparemment. Utile pour le salut. Ensuite, verset 16, pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et encore, je ne prends pas énormément de temps, mais je vais vous donner une image. Le mot enseigner, c'est l'idée d'aller dans une ligne droite. Donc, c'est-à-dire, la Bible me montre un bon chemin où il faut que je continue. Dieu me montre ce qu'il veut de ma vie. Donc, je commence dans ce chemin, et pour me convaincre, parce que quelquefois, j'ai du mal de rester sur le bon chemin. Et à ce moment-là, la Bible, c'est comme le miroir, donc dans Jacques. Hein, la Bible me montre où je commence à dévier, où je commence à faire des bêtises. La Bible me convainc de cette chose. La Bible montre où je ne fais pas. Corriger, c'est la Bible me redonne le bon chemin. C'est la correction pour retrouver le chemin que Dieu veut. Et ensuite, pour instruire dans la justice, c'est de recommencer, de continuer dans cette ligne que Dieu veut. Donc, Bon, la question qui est trop facile, mais avez-vous péché aujourd'hui? Non, il ne faut pas lever la main. On sait que la Bible est vraiment utile pour cette vie chrétienne, pour nos actes, nos pensées, nos gestes, nos attitudes. Dieu nous donne la parole pour notre vie quotidienne en Christ. Et donc finalement, la Bible est utile, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Cette idée que la Bible est là pour nous former, c'est l'idée d'une aptitude spéciale pour un service. Et l'idée d'être équipé, c'est fournir parfaitement. Donc, la Bible est ici pour nous équiper, pour nous former, pourquoi ? Pour toute bonne œuvre, pour toute œuvre bonne. La Bible existe pour que Dieu puisse nous montrer ses œuvres préparées en avance, dans Éphésiens 1. La Bible est là pour nous montrer comment nous puissions être au service du Seigneur. La Bible est utile. Donc, quand toute cette idée de la réforme, et je vais toucher encore d'autres aspects demain, mais quand ça a commencé, il y avait Jacques Lefèvre d'Étaples, qui a, pour la première fois de sa vie, il a vraiment compris le message de l'Évangile, justifié par la foi. Quand cette parole était enseignée à Paris, à Meaux, un peu partout, il y avait des changements. Mais aussi, il y avait des changements à La Rochelle. Donc voilà, ici, vous voyez là, ça se passe chaque jour à La Rochelle. Je sais, à Bordeaux, vous avez quoi? 10 à 15 jours de soleil par an? Ce que j'ai lu, hein. Je crois pas tout ce que j'ai lu, mais... Mais à La Rochelle, ça s'appelle un mardi, hein. Donc, 19,5 degrés, bon. Mais en fait, blague à part, ici, c'est le quartier Saint-Sauveur-La Rochelle, le Vieux-Port, c'est juste à côté ici. Et dans ce quartier, il y avait un jeune homme qui s'appelait Guillaume Joubert. Il est né autour de 1500, quelque part là. On ne connaît pas exactement la date de sa naissance, mais il est né à La Rochelle. Mais il n'est pas juste n'importe qui, il est quelqu'un. Parce que son père est l'avocat du roi François Ier à La Rochelle. Donc son papa, en fait, quand il y avait un bateau espagnol qui était arrivé dans le vieux port de La Rochelle, c'est son père qui signait les documents pour le roi. Donc, il est élevé dans ce milieu-là. Et comme tous les gamins de l'époque, surtout les garçons, si papa est avocat, je suis... Ben, j'ai pas de choix, hein. Papa, il est fermier, ben, c'est comme ça, hein. Et donc, il monte à Paris, vers 1519-20, quelque part là, pour faire ses études de droit à Paris. Et en même temps, et on sait pas, on n'a aucune idée comment ça s'est passé, mais comme je vous ai dit, hein, il y avait des jeunes de la ville de Meaux qui sont entrés à Paris pour prêcher l'Évangile. Guillaume Joubert de La Rochelle, il entend le message de Dieu, il accepte le Seigneur Jésus, il devient un serviteur de Dieu fervent. Donc lui, il commence à marcher dans les rues de Paris, il prêche l'Évangile, mais il est extrêmement fervent. Donc il prêche l'Évangile de Jésus, mais il casse le culte de Marie. Mais il est virulent, hein, il prêche fort. Le problème, c'est que l'État et l'Église, et l'Église et l'État, et vous prêchez contre Marie, et ça va mal. Et donc, il prend le Seigneur comme son sauveur, et le 15 février 1525, sur la place Maubert. Donc, si vous ne connaissez pas trop Paris, place Maubert, c'est ici. À droite, 300-400 mètres, c'est l'église Notre-Dame-Paris. Donc, on est dans ce quartier-là. Il a un tribunal devant l'église Notre-Dame-Paris, il est trouvé coupable, il est amené ici, au place Maubert, à la place de Maubert, et sa langue est coupée. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais renié le Seigneur. Il est attaché à un poteau, il est du bois autour de ses jambes, et le feu est mis. Il est brûlé vif pour le Seigneur Jésus. Mais ici, dans le quartier Saint-Nicolas de La Rochelle, la nouvelle est tombée que Guillaume Joubert a été brûlé vif à Paris. Et là, on gratte la tête et on dit non, mais c'est pas possible. Son papa est l'avocat du roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est impensable. Et dans ces quartiers où le petit Guillaume a passé sa jeunesse, il est vraiment connu, ils ont appris qui lisait la Bible en français. Et là, aujourd'hui, comme à cette époque, ce n'est pas les pauvres qui habitent là. Donc, vous voyez, donc, cette maison-là, c'est pas la mienne, est loin de, mais, les riches habitent là aujourd'hui et les riches habitaient à ce moment-là. Et ils avaient des moyens, ils avaient des possibilités d'obtenir les Bibles. Et ils l'ont fait. Ils ont amené d'abord le livre de Romains traduit en français. Ils ont carrément creusé des petites chapelles dans le sous-sol de ces maisons pour faire les, pas les cultes, mais juste pour faire la lecture de la Bible. Et sans pasteur, et sans enseignant, et sans dirigeant, ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont lu la parole de Dieu. Et donc, à un tel point, il y avait assez de chrétiens dans ces quartiers. Ils ont demandé le prêtre, le curé de cette église catholique, s'il pouvait faire un rassemblement dans l'après-midi. Le curé était très intelligent parce que c'est les gens riches qui donnent. Il a dit, oh non, il n'y a aucun problème, venez, vous avez l'église à votre disposition. Donc, ensemble, ces nouveaux chrétiens, ils ont prié, chanté, ils ont lu la Bible et après quelqu'un a commenté sur la Bible. Aujourd'hui, ça se fait un culte, hein, mais ils ne savaient pas. Mais ils savaient que quelque chose a été transformé dans leur vie. À un tel point, vers la fin de 1545-8, quelque part là, Henri II, donc qui est le fils de François Ier, Henri II qui est roi de France, il a entendu, et donc il y a un document qui existe, il y avait un espace de réunion dans la ville d'Angers, et dans ce document, il a dit, il y a trop d'hérésie dans la ville de La Rochelle, il faut envoyer quelqu'un pour éliminer ces hérétiques, ou nos frères et sœurs en Christ, qui aujourd'hui, on les appelle les Huguenots. Mais ils étaient là à La Rochelle, et donc il a envoyé Claude d'Onglier, un homme de l'armée française, un bon soldat qui était là, pour espionner, pour voir, pour constater qui faisait quoi et pourquoi il y avait des chrétiens, ou les, plutôt les ex-chrétiens pour lui, non fidèles à l'Église catholique. Et vers le mois de mai 1552, il a trouvé, donc c'est là le palais de justice, c'était le siège de Claude d'Onglier, c'est là qu'il a fait tout son travail. Et là, il y aura un procès de ces trois hommes. Et ces trois hommes, en fait, aujourd'hui, on dira c'est les trois pasteurs qui étaient là à La Rochelle, mais ces trois hommes ont été arrêtés le 10 mai 1552, amenés ici devant l'église Notre-Dame de La Rochelle. Et carrément, c'est les pavés d'origine, hein, c'est les pavés qui étaient là en 1552. Ils ont pris Mathias Courreau, la langue coupée. Ils ont coupé souvent la langue parce que les chrétiens qui étaient brûlés vifs, ils avaient une tendance de chanter, de prêcher, de citer les paroles de Dieu. Ils ont coupé sa langue, il était brûlé vif. Ils ont pris Pierre Constantin, lui il était étranglé et son corps était brûlé. Et là ils ont pris Lucas Mongeau et lui il était fouetté 100 fois et banni de la ville de La Rochelle. Il est disparu de l'histoire, c'est impensable de penser qu'il a continué sa vie parce qu'il était terriblement blessé, avec aucun soin, aucune possibilité d'avoir la nourriture, donc normalement il est décédé après. Et Claude d'Onglier a mis à mort, ici, devant cette église, ces trois chrétiens. Il a écrit après dans un journal qu'il était très content, qu'il accomplit la volonté du roi et il attendait de monter en grade. Donc il rentre chez lui. Ça, je suis marché de cette église, la maison là, 113 fois, j'ai aucune idée, mais chaque fois ça me donne les frissons. Hein. Il marche jusqu'à sa maison, il a crié après qu'il a mis sa tête sur l'oreiller, il ferme ses yeux pour prendre une belle nuit de sommeil parce que il accomplit la volonté du roi. Hein. Il n'y avait plus rien de meilleur dans sa vie. Il a dit quand il a fermé ses yeux, d'un coup, il avait l'image de trois personnes, de trois hommes dans sa tête. Et c'était les trois pasteurs. Et là, il a dit, il était honté parce qu'en fait, il voyait les visages calmes, remplis de paix, juste avant l'exécution de ses punitions, juste avant le martyr. Et là, il a crié après que pendant 6 jours, 6 nuits, en fait, il ne pouvait pas dormir, hein. À 2h, 3h, 4h du matin, finalement, il tombe en sommeil, mais une heure après, il se réveille avec un rêve de ses visages. Il était tourmenté. Et donc, Il connaissait d'autres personnes dans ce mouvement, ces hérétiques. Et dans la nuit, il est allé chercher cet homme et il a demandé simplement quelle est votre raison d'être. Pourquoi vous avez parmi vous les personnes qui sont prêtes à mourir dans le calme, dans la paix, avec une joie? Il a entendu l'évangile et il est lui-même devenu chrétien. Donc, il n'y a personne qui sait quel jour ça s'est passé. À lundi ou à vendredi, on n'a aucune idée. Mais ce qu'on sait, et ça c'est véridique, le dimanche après, le première église, c'était pas les baptistes, je suis désolé, mais la première église huguenote, on va dire ça, de La Rochelle, s'est fait ici. Ils n'avaient plus besoin d'être en cachette, parce que l'homme du roi, c'est lui qui nous invite dans sa maison. Et cette église s'est faite là pendant 6 mois, et après c'était fini parce qu'il y avait trop de chrétiens. Parce que Claude Anglier n'était pas le seul qui était touché par ce qui s'est passé. Donc ensuite, il y avait une église formée dans un ancien couvent, parce qu'en fait, un prêtre a amené toutes les bonnes sœurs à Christ. C'était pas mal. Hein. Après, il y avait aussi, ici, 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 5 églises. 5 églises de maison parce qu'il y a 5 étages. Donc il y avait une église à chaque étage. Il y avait des églises partout. En 1572, à peu près, 70-72, il y avait carrément une fac chrétienne formée à La Rochelle. Et je dis ça juste pour 2-3 personnes, c'est le Bob Jones de la France, mais bon. Mais en fait, il y avait une fac chrétienne à La Rochelle. Le but, c'était de former des profs, des enseignants, des infirmiers, des médecins, pour les envoyer en France pour évangéliser. Ils ont carrément envoyé les missionnaires de la France. Il y avait des Bibles imprimées. Il y avait la première Bible basque était imprimée à La Rochelle. Il y avait sur chaque maison une stèle, ou je ne sais pas si c'est une stèle, j'appelle ça une stèle. Ça, c'est la seule qui reste. Hein. L'agneau de Dieu. Et autour, ça dit Dieu exauce les humbles, les prières des humbles. Quand une famille est devenue chrétienne, tout de suite, ils sont allés acheter quelque chose pour montrer sur la maison, pour dire, nous, on a changé. À cette époque-là, il y avait 25 000 Rochelais. La plupart des livres historiques qui parlent de cette époque-là, ils parlent de 24 ou 24 500 chrétiens. Parce qu'il faut donner une petite marge pour ceux qui n'étaient pas tout à fait. Mais ce qui est quand même aussi vrai, chaque maison portait quelque chose comme ça. À un moment donné, Dieu a sauvé et transformé toute la ville de La Rochelle. Et vous savez comment il a fait ça? Donc il y avait même un grand temple qui était là. La parole. En 1520-25, quelque part là, Guillaume Joubert est mort. Les familles riches demandent une Bible. Et ben voilà, la Bible arrive. Et de 1, 2, 5, 10 Bibles, je ne sais pas, toute une ville a été transformée par la parole de Dieu. Parce que quand on parle de sola scriptura, on parle du fait que la Bible est l'autorité suprême. Seules les Écritures constituent la norme par laquelle tous les enseignements et doctrines de l'Église doivent être mesurés. Vous avez dans vos mains la parole de Dieu. Mais vous avez aussi la possibilité de donner la parole de Dieu à la famille, aux voisins, aux collègues de travail et même vos ennemis. Apparemment, c'est possible. Et cette parole est puissante. Et cette parole a déjà transformé les vies et les villes en France. Et elle peut toujours faire la même chose aujourd'hui. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes ensemble. J'espère, Seigneur, que nous puissions être transformés par aussi cette histoire, mais surtout, Seigneur, par ta parole. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, même Seigneur, aujourd'hui, demain et dimanche, Seigneur, je prie que tu puisses encore sauver les âmes en France. Et Seigneur, je prie que tu nous montres constamment que nous possédons, Seigneur, la meilleure chose que tu puisses nous donner, Seigneur, ta parole. Et par ta parole, Seigneur, tu nous montres que nous avons la vie en Jésus, que nous avons une espérance au ciel. Et donc, Seigneur, on dit simplement merci pour tout ce que tu fais, pour tous tes bienfaits. Et Seigneur, on prie ces choses au nom de Seigneur Jésus. Amen.